RGM Info, le journal Olivier Zano, bonsoir.
Bonsoir. Seltor a pansé ses plaies 4 mois après l'incendie qui a ravagé sa halle de stockage à Tavannes. Le bâtiment sera reconstruit. On en parle en ouverture de cette édition. À la star d'autres communes dans la région, Bienne appelle aussi ses citoyens à utiliser l'énergie avec parcimonie. La ville lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation. On vous la présente dans quelques instants. Dans la cité saillantaise, toujours ce nouveau partenariat pour le FC Bienne. Il a été conclu avec la société suisse Core Sports Capital, propriétaire notamment du club de Ligue 1 Clermont Foot 63. Les détails de cette collaboration, ça sera dans notre page sport. Le ciel restera chargé ce soir et cette nuit, mais pas de pluie normalement, excepté peut-être une légère bruine. Demain mercredi, de la grisaille encore, quelques flocons peut-être des 1000 mètres d'altitude. Très peu de soleil au menu et des températures fraîches, 4 à 7 degrés au meilleur de la journée. C'était dans la nuit du 26 juillet dernier. Un violent incendie s'était déclaré sur le site de l'entreprise Seltor à Tavannes. L'hypothèse d'une surchauffe des déchets en raison de la canicule a été évoquée au départ, mais c'est bien une négligence humaine qui est la cause de l'incendie, à savoir la présence d'un élément inflammable dans les ordures ménagères. Pour couronner le tout, le système d'alarme relié aux caméras thermiques ne s'était pas déclenché. Le toit de la grande halle a été rongé par les flammes. 4 mois plus tard, la vice-présidente du conseil d'administration de Seltor nous explique comment l'entreprise a réagi, Anne-Marie Kounen.
On avait encore un tas d'ordures qui continuaient de fumer, donc il fallait évidemment au plus vite éteindre cette partie-là. Donc on a évacué par petits tas ce tas d'ordures pour encore gicler, pour qu'ils s'éteignent vraiment, pour que ça se soit complètement sécurisé. Ensuite, il a fallu prendre rapidement des mesures de prévention par rapport au bâtiment qui a brûlé, parce que le bâtiment, il a brûlé, mais il y avait des structures qui restaient évidemment érigées. Ça continuait encore un peu de brûler dans des parties de bois, c'était du bois un peu aggloméré comme ça. Il fallait en fait les démonter au plus vite, parce qu'il fallait éviter que tout à coup ça tombe sur les parties de bâtiments qui n'ont pas du tout été impactées par l'incendie. Il y a une partie de la halle qui n'a pas brûlé, qu'on devra probablement démonter au moment où on reconstruira la halle. On va tout prochainement faire une demande de permis de construire pour reconstruire cette halle, mais ça ne se fera pas avant l'année prochaine, ça c'est sûr.
Pour sensibiliser la population à ces risques d'incendie, Seltor a envoyé récemment un bulletin d'information aux citoyens des communes de son périmètre d'action. Avec ce rappel important, trier ses déchets, c'est bien pour l'environnement, mais ça l'est aussi pour la sécurité. Évitez à tout prix de jeter dans vos ordures ménagères les batteries au lithium, accumulateurs et autres engins hautement inflammables. Bien appelle ses citoyens à utiliser l'énergie avec parcimonie. La ville lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation pour diminuer la consommation au quotidien. Sur fond de menaces de pénurie au niveau national, les autorités saillantaises ont décidé de rappeler les gestes simples à leurs citoyens. Une campagne d'affichage basée sur un jeu de post-it a démarré en ville. Les slogans invitent les 56 355 biennoises et biennois à éviter le gaspillage. Un chiffre qui vient souligner l'importance de la responsabilité individuelle dans le processus. Lena Franck, directrice de l'énergie pour la ville de Bienne.
Oui, c'est vraiment de montrer qu'il y a chacun, chacune qui peut faire un effort, pas seulement les piennois, piennoises, mais aussi les magasins, les privés, les entreprises. Donc il y a vraiment tout le monde qui est dans sa responsabilité, aussi la ville de Bienne qui a déjà fait un effort. Donc c'est vraiment l'idée de montrer que c'est nous tous qui peut faire quelque chose pour envisager cette potentielle crise, et espérons qu'avec les mesures qu'on prend, qu'on y arrive à la gérer avant que c'est une crise.
Il y a aussi une volonté de simplifier en quelque sorte la démarche, l'idée du post-it le prouve.
Oui, c'était aussi l'idée de le simplifier, aussi d'humaniser un peu, parce qu'on avait l'impression que la campagne de la Confédération, elle est assez technique, donc c'était important pour nous de simplifier, de montrer que c'est facile. L'autre côté aussi de personnaliser, c'est pour ça qu'on a choisi aussi des pièces piennois, piennoises, connues ou moins connues, mais qui ont vraiment un rapproche aussi local.
Lena Franck, conseillère municipale en charge de l'énergie à Bienne, répondait à Natacha Mengoli. Des publications de sensibilisation seront également faites sur les réseaux sociaux. La ville de Bienne finance cette campagne d'économie d'énergie à hauteur de 40 000 francs. Énergie Service Bienne y participe aussi en injectant ce même montant. Les enseignants jurassiens réagissent aux mesures d'économie élaborées par le gouvernement cantonal. Plus de 80 d'entre eux ont écrit hier au service d'enseignement pour demander symboliquement leur mutation à Moutier et ainsi mettre en lumière les meilleures conditions de travail, notamment salariales, en cours dans le canton de Berne. Selon le plan d'économie jurassien 22-26, les enseignants jurassiens se verraient notamment imposer une semaine supplémentaire de congés non payés. Rémi Meury, secrétaire général du syndicat des enseignants jurassiens, explique la démarche initiée par le CEJE.
L'essentiel pour nous, c'est de faire remarquer que ce plan équilibre est vraiment déséquilibré, en fait. Et son appellation est totalement fausse. L'élément fondamental, c'est que la coordination des syndicats est entrée en matière sur des recherches d'économie. Il y avait deux conditions. La première condition, c'est que les économies s'appliquent à l'administration, à l'enseignement de la même manière, ce qui n'est pas le cas pour cette semaine de vacances supplémentaires, et surtout que ce ne soit pas des décisions pérennes, qu'on dise c'est valable jusqu'en 2025 avec l'arrivée de Moutier, et à ce moment-là on devra rediscuter d'une manière générale avec les nouveaux fonctionnaires, les nouveaux employés de l'État qui arrivent de Moutier. Ils doivent aussi comprendre qu'il y a peut-être un effort à faire.
Ces garanties pour les fonctionnaires prévôtois qui viendront dans le Jura, vous les avez aussi votées comme parlementaires. Vous avez aussi contribué à ce que les fonctionnaires prévôtois bénéficient de ces garanties.
Je soutiens absolument le maintien des droits acquis pour les Bernois en disant, mais attention, essayer de faire en sorte que les jurassiens n'aient pas un statut péjoré jusqu'à leur arrivée. C'est plutôt le bon exemple, c'est de leur garantir les droits acquis. Essayons d'appliquer ce bon exemple aux employés jurassiens qui sont déjà là.
Rémi Meury, au micro de Marceline Michon, contacté le chef du service jurassien de l'enseignement, Fredon Richneck, ne souhaite pas réagir pour le moment. Le débat sur les retraites reprend au Parlement. Après le oui du peuple à la réforme de l'AVS, les élus doivent trouver un compromis sur le deuxième pilier. Le gouvernement et les deux chambres sont d'accord sur le principe. Il faut permettre aux personnes à bas revenus de cotiser davantage dans la prévoyance professionnelle. Mais chacun vient avec des solutions différentes. Ce matin, c'est le Conseil des États qui a fait ses propositions. Les explications de Marie Vuhemier.
Aujourd'hui, tout le monde ne doit pas cotiser au deuxième pilier. Seuls les salariés à partir d'un certain niveau de revenus ont cette obligation. Le Conseil des États veut réduire ce seuil pour permettre aux plus bas revenus de participer. Il propose que toutes les personnes qui gagnent plus de 17 000 francs par an cotisent désormais à la prévoyance professionnelle. Il s'agit d'un compromis entre la solution du Conseil fédéral et celle du Conseil national. Les sénateurs veulent aussi que les cotisations soient calculées sur l'ensemble du salaire. Aujourd'hui, seule une partie du revenu est assurée dans le deuxième pilier. Le Conseil des États propose que 85% du salaire annuel soit pris en compte, une solution qui va, elle, bien plus loin que celle du gouvernement et du Conseil national. Les précisions de Johanna Gapani, sénatrice libérale radicale.
Elle permet, en fait, de tenir compte des personnes qui cumulent différents revenus et qui ont chaque fois des petits revenus, de chaque fois avoir une majorité de la masse salariale qui est assurée. Et là, ça permet véritablement d'avoir une meilleure prévoyance une fois qu'elles arrivent à la retraite.
Augmenter la participation dans le deuxième pilier des personnes à bas salaire ou à temps partiel leur permettra d'avoir une meilleure retraite. Mais ça signifie aussi qu'elles devront cotiser plus et auront donc moins de revenus disponibles. Un élément dont il faut tenir compte, estime Marina Carobbio, sénatrice socialiste.
D'une part, c'est juste de trouver des mesures pour permettre aux femmes et aux bas revenus d'avoir accès au deuxième pilier. Mais d'autre part, on ne doit pas les pénaliser avec le fait qu'ils payent plus de cotisations, et oui, ils recevront rente dans 20 ou 40 années, mais ces personnes ont des problèmes, mais non. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment donner à la génération des transitions des suppléments de rente suffisants, d'une part, et améliorer la baisse. Ça reste quand même la solution meilleure.
Les mesures d'accès au deuxième pilier proposées par le Conseil des États diffèrent de celles du Conseil national. La discussion va donc se poursuivre encore un moment entre les deux chambres afin de tenter de trouver un compromis.
Dans le secteur de la construction, les partenaires sociaux ont trouvé un accord pour le renouvellement de la convention nationale. À partir du 1er janvier, les salaires effectifs devraient être augmentés de 150 francs et les salaires minimums de 100 francs. On passe à l'actualité internationale. La Chine a envoyé aujourd'hui 3 nouveaux astronautes vers sa station spatiale. Ils effectueront dans quelques jours le premier relais d'équipage en orbite de l'histoire de leur pays, selon un média officiel. Les astronautes, 3 hommes, resteront 6 mois dans l'espace. Elles étaient plutôt taiseuses à ce sujet. Les autorités iraniennes ont pour la première fois fait état de la mort de plus de 300 personnes dans les troubles qui ont suivi le décès de la jeune Mahsa Amini, arrêtée 3 jours plus tôt par la police des mœurs, qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict du pays. La mort de cette kurde iranienne mi-septembre a déclenché une vague de manifestations lourdement réprimées. L'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, a fait état de son côté d'au moins 448 personnes mortes depuis le début des émeutes. L'OTAN va augmenter son aide à l'Ukraine. L'hiver s'annonce difficile en raison des pénuries d'eau et d'électricité provoquées par les attaques russes contre les infrastructures du pays. Un hiver que Vladimir Poutine cherche à utiliser comme arme de guerre faute de progrès de ses forces sur le terrain. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Bucarest le secrétaire général de l'Alliance.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h10.
Sport. Le FCBN se renforce avec un nouveau partenariat. Le club de Promotion League de football a annoncé aujourd'hui le début de sa collaboration avec la société suisse Core Sports Capital. Fondée par Ahmed Schaeffer, elle est propriétaire du club de Ligue 1 française Clermont Foot 63 et possède une participation minoritaire dans le club de l'élite autrichienne de Lustenau. Le Zurichois veut profiter des infrastructures biennoises pour offrir une plateforme à ses deux autres clubs et créer des synergies. Il apportera son savoir-faire sous forme de service. Ahmed Schaeffer.
D'abord, l'idée c'est d'apporter une certaine prestation de service, notamment pour stabiliser la partie sportive dans le court terme, et après d'avoir aussi une vision moyen-long terme pour à partir de l'été prochain. Ça veut dire qu'il y aura un préparateur physique, il y aura un coordinateur sportif, il y aura des outils GPS par exemple, pour mieux capter les datas des joueurs, les comparer, les datas de performance. Il y aura des joueurs de notre réseau, évidemment, toujours en gardant notre club phare, ce qui est le Clermont Foot, puisqu'on a le Clermont Foot ainsi qu'une participation de 25% avec l'Austria Lustenau, dont on est monté aussi après 22 ans, et avec le Clermont Foot, il y a 2 ans, pour la première fois de l'histoire du club, où on a pu se maintenir en Ligue 1. Donc l'idée reste vraiment d'offrir à ce joueur perspectif qui pourrait après avoir vraiment une carrière en Ligue 1 en France, des idées de développement supplémentaires. Pour faire cela, il faut les accompagner, il faut les intégrer et après surtout les développer pour apporter la valeur ici au FC Biel-Bien pour que d'abord on peut stabiliser le club rapidement et croître dans le futur. On sait que ça ne va pas seulement se faire avec des joueurs de perspective, pas du tout, ça c'est pas l'objectif. L'objectif c'est aussi, moi en étant le premier comme Suisse, d'apporter des joueurs suisses d'expérience qui puissent stabiliser, qui puissent apporter aussi une certaine tranquillité, un équilibre à l'intérieur dans le vestiaire et aussi sur le terrain. Et après, évidemment, créer aussi des plus-values avec des joueurs qui vont développer au fur et à mesure.
Malgré son actuelle place d'avant-dernier de Promotion League, le FCBN s'appuie sur ses infrastructures pour rester ambitieux et garde comme objectif de retrouver rapidement la Challenge League. Le partenariat trouvé correspond au projet que ses dirigeants veulent mener, le président Dietmar Fess.
On veut renforcer notre club. On est très ambitieux. On voit qu'on est maintenant arrivé à nos limites. Et puis, pour vraiment atteindre les objectifs, il fallait trouver une coopération avec un partenaire fort. Et avec la société d'Ahmed Schaeffer, avec Core Sports Capital, on a quand même maintenant un partenaire qui a une très bonne réputation et qui a fait preuve de ses capacités.
À combien est-ce qu'on peut chiffrer cet apport?
Je dirais entre 300 et 400 000 francs.
Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre la main sur votre club?
Non, pas du tout. L'essentiel, c'est que le club, il va bien. C'est ça qui est important. On a toujours dit, on travaille pour le FCBN. Ça n'a rien à voir avec Dietmar Fess ou avec quelqu'un d'autre. C'est le FCBN qui compte. Et on essaie toujours de faire les choses au mieux pour notre club. Et je pense que c'est vraiment une solution fantastique qu'on a trouvée.
Est-ce qu'il y aura une contrepartie à donner de la part du FCBN?
Non, une contrepartie, il n'y en a pas. Disons, la contrepartie, c'est de faire évoluer les joueurs. Puis aussi de maintenir la Ligue. Et puis après de chercher vraiment la promotion Challenge League. Ça c'est la contrepartie, mais c'est une contrepartie sportive. Mais c'était comme un pari sur le succès du FCBN. Et c'est ça qu'on cherche et puis on veut gagner ce pari.
C'est pas un peu contradictoire de parler de challenging maintenant alors qu'on est avant-dernier en Promotion League?
Moi, je pense que ça serait plutôt arrogant de rien faire et de dire, voilà, maintenant, on dispose d'une infrastructure fantastique payée par les habitants de la population biennoise et puis après, d'être content de pouvoir jouer en Promotion League. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a cherché des coopérations, pour ce qu'on veut avancer le club. Et il faut avoir des objectifs. Si vous êtes content de pouvoir jouer en Premier League, je pense que là, on n'est pas à la bonne place. D'accord. Et puis c'est clair, le FC Bilbien, il vient d'où? Il vient de la Challenge League.
Un dossier réalisé par Émilie Mumenthaler, actuellement constitué sous forme d'association, le FC Bien pourrait prochainement créer une société anonyme avec sa première équipe. Core Sports Capital aurait une participation minoritaire qui ne dépasserait pas les 33%. Le HC Bien en déplacement dans les Grisons. Les hockeyeurs célandais se frottent à Davos à 19h45. Ils ont un troisième succès de rang en National League dans le viseur et l'envie de rester au contact du leader Genève qui possède 8 longueurs d'avance avec un match en plus au compteur. Davos HC Bien, c'est une partie à suivre en direct sur RJB dès 19h30. Avant de vous quitter, un mot sur la Coupe du Monde de football au Qatar. Tout est joué dans le groupe A, un groupe remporté par les Pays-Bas qui rejoignent les huitièmes de finale après leur victoire 2-0 face au pays organisateur. C'est le Sénégal qui décroche finalement la deuxième place au bout du suspense. Succès des Africains 2-1 face à l'Équateur. Ces deux matchs viennent de se terminer. Ce soir 20h, les deux dernières rencontres du groupe B sont au programme. L'Angleterre en tête du groupe avec 4 points affronte le pays de Galles, dernier avec une seule unité. Le second match opposera l'Iran, deuxième aux États-Unis, troisième. En théorie, toutes les équipes peuvent se qualifier, même si la tâche s'annonce quasi impossible pour les Gallois et qu'elle est quasiment acquise pour l'Angleterre. L'Iran a son destin en main. S'ils battent les États-Unis, les Iraniens seront en huitième pour la première fois de leur histoire. Un nul les qualifierait aussi si l'Angleterre n'est pas battue par le pays de Galles. Toute l'actualité est à retrouver à 18h30 dans notre journal de la Coupe du Monde. Très belle soirée.